Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinécure, le troisième de la saison 3 déjà, mais le premier qui aura une forme un peu différente puisqu'il s'agit d'un double épisode. Dans ce double épisode, nous allons parler de films noirs. Tout ce que j'ai pu lire ici ou là à propos du genre, dans le but de vous en donner une définition, est un peu flou et souvent source de contradictions. Si tout le monde s'accorde à dire que le film noir vient du genre criminel, les définitions qui en sont données tournent souvent autour de personnages clés qui apparaissent en général, mais pas toujours, dans ces films. Les plus représentatives sont à n'en pas douter le détective privé, qui par nature est capable d'être à la fois du côté de la loi et de celui des criminels, et bien sûr la femme fatale, figure inventée par une industrie patriarcale par excellence, qui fantasme une représentation de tout ce qu'elle craint le plus. Pour ma part, je suis assez d'accord avec la définition qui fait du film noir un objet dans lequel les personnages sont amenés, par un contexte particulier, à traverser la frontière qui sépare le bien du mal. Ils le font parfois malgré leur nature et d'autres fois encouragés par celle-ci. D'une manière générale, cette traversée sera bien souvent entraînée par des personnages aux motivations cyniques, qu'ils soient protagonistes ou bien secondaires. Genre fleuve et qui a laissé un héritage inestimable à l'industrie cinématographique, j'en veux pour preuve que si on s'amusait à revisiter les épisodes de Cinécure publiés jusqu'à ce jour, à la lumière de cette définition, on y trouverait bon nombre de films noirs. Le Gouffre aux Chimères dans l'épisode 1 de la présente saison, Max et les Ferrailleurs dans l'épisode 2 de la saison 1, Les Passagers de la Nuit dans l'épisode 3 de la saison 2, cette définition est volontairement assez large et regroupe donc un grand nombre de films qui verront le jour, je l'ai déjà dit, entre les années 40 et 50. Et ce n'est pas un hasard, mais ce sont aussi les années aux États-Unis où le code Hays est en vigueur. Or, pour bien comprendre le film noir, il me semble inévitable de bien comprendre le code Hays parce que sa mise en place a eu une influence majeure sur ce genre. Établi en 1930, le code vient régir une industrie hollywoodienne déjà en pleine mutation, due notamment à l'arrivée du son. Souvent décrite à raison comme un endroit de perdition où les valeurs chrétiennes ont été abandonnées depuis longtemps, Hollywood doit réapprendre à vivre avec cette nouvelle contrainte et des changements majeurs qui vont découler de cette évolution technique et naturelle du cinéma. Beaucoup de directeurs de studio, à l'époque omnipotents, voient en cette métamorphose le moment idéal pour reprendre le contrôle et surtout éviter l'intervention d'organismes extérieurs, nommément l'État. Le sénateur Hays est désigné pour rédiger un ensemble de règles qui devront calmer les esprits les plus rebelles. Et le fait est qu'après son entrée en vigueur, le code change radicalement le visage d'Hollywood, qui devient une industrie vertueuse, dont les films sont censés montrer la voie de l'honnêteté et de la droiture. Et se pose donc un problème de taille pour les cinéastes. Comment continuer de proposer du contenu qualitatif qui entraîne une réflexion tout en respectant les contraintes que le code Hays impose? En un mot commençant, comment éviter de faire un produit de propagande chrétienne quand ce que l'on veut raconter, c'est précisément l'inverse? Et comme toujours, de la pression exercée sur le processus créatif, naît l'intérêt pour les artistes de contourner les règles que cette pression incarne. Le film noir est un parfait exemple de ce contournement. Comment montrer à l'écran un acte criminel si le code nous interdit de le faire? En punissant le coupable, bien sûr, ou en lui offrant une rédemption. Ainsi peut-on voir à l'écran des gens tués, volés, pillés, trompés, mais tout cet étalage de comportements, réprimandés par la morale, ne sont paradoxalement montrés que pour être punis par la suite. Dans ces années où le code a été appliqué sévèrement, c'est-à-dire de 1934 à 1955 environ, le film noir, aux côtés de son frère jumeau, le film de gangster, offre aux cinéastes, qui le souhaitent et qui sont malins, une belle échappatoire pour filmer l'infilmable. Partant de ce constat, j'ai décidé de vous proposer deux épisodes. Le premier portera sur le film noir des années 30 à 60, c'est-à-dire à peu de choses près l'âge d'or du genre. Le deuxième portera quant à lui sur l'héritage que le film noir lègue à une industrie débarrassée du code Hays, abandonnée définitivement en 1966. Nous explorerons ce genre dans les années 70, 80, 90 et 2000. Vous l'aurez compris, j'ai aussi choisi de me limiter à parler des États-Unis, pays de naissance du film noir, même s'il y a des occurrences du genre partout ailleurs. On en parlera dans d'autres épisodes, c'est une promesse. Allez, mettez vos plus beaux par-dessus, coiffez-vous de vos fedoras, enfilez vos robes de soirée et allumez vos cigarettes, parce qu'on est parti pour une plongée dans les bas-fonds de l'existence, une exploration des passions humaines. C'est parti pour le premier épisode de Cinécure dédié au film noir. « Fury de Fritz Lang, durée 1h36. Joe Wilson, un jeune homme honnête et droit, est éperdument amoureux de Catherine, une jeune femme tout aussi exemplaire. Lorsque cette dernière doit quitter Chicago parce qu'elle a trouvé un travail plus rémunérateur, Joe se met en tête d'aller la retrouver et de l'épouser le plus vite possible. Les retrouvailles ne vont pas se passer comme prévu. En 1936, Fritz Lang est aux abois. Arrivé 3 ans plus tôt aux États-Unis sans un sou en poche, avec pour seule consolation sa réputation qui le précède et la certitude d'avoir échappé au pire, c'est une véritable star de l'Allemagne pré-nazie où il plaît aussi et beaucoup à un certain Adolf Hitler, particulièrement son Metropolis sorti en 1927. Convoqué par Goebbels qui souhaite faire de lui le directeur de l'industrie du cinéma allemand en 1933, il accepte immédiatement puis rentre chez lui et quitte le pays sur le champ, direction Paris où il finira de perdre tout ce qui faisait sa vie en Europe. Ses biens sont confisqués par le régime nazi et il se sépare de sa femme qui, elle, soutient l'idéologie raciste et antisémite. Une fois aux États-Unis, il finit par travailler à la Metro-Goldwyn-Mayer, le studio Lyon, plus connu sous ses initiales MGM. De son propre aveu, Lang ne fait pas grand-chose. Il écrit un peu, participe à l'écriture de projets et surtout s'ennuie. Convoqué par Mannix au bout d'un an, il est viré mais refuse ce licenciement et se voit accorder par l'homme de main du studio une dernière chance. C'est à ce moment-là que naît Fury, le film dont j'ai décidé de vous parler.
How many times do you want me to say yes?
Every time you say it is like the first time. My heart starts beating like I just run around the block. You know, those slippery little rugs are out. A guy could break his neck on those.
Mr. Wilson.
You plan doing a lot of running around?
Yeah, after you.
The rugs are out.
And the twin beds, too.
Out like a light. Hey, I like peanuts, too.
I thought you hated them.
I did once.
What changed your mind?
I love you. You love peanuts. I love peanuts too.
Well, I guess that wins.
Lang a souvent été décrit comme un personnage amer, tyrannique, voire même toxique, ce qu'il était assurément. Nombre de ses collaboratrices ont d'ailleurs souvent juré ne plus vouloir jamais travailler avec lui. C'est notamment le cas de Spencer Tracy, personnage principal de Fury dont il est question aujourd'hui. Avant de parler des raisons pour lesquelles le film est une réussite, je crois qu'il faut évoquer les personnalités qui ont participé à sa création. Outre Lang, dont c'est le premier film américain et qui a eu la carrière que l'on sait, si vous ne connaissez pas bien le cinéma de Fritz Lang, je ne saurais que trop vous encourager à le découvrir, il y a en effet un certain nombre de gens engagés sur le projet qui valent au moins une mention. À commencer par le producteur, un certain Joseph Leo Mankiewicz, qui sera plus tard un réalisateur d'une grande renommée, mais qui à cette époque officie encore comme simple producteur pour la MGM, qui le choisit en raison de son parfait allemand, qui lui permettra d'échanger avec le réalisateur plus facilement. Avec ça, on peut dire que le film est né sous une bonne étoile, mais ce n'est pas tout, puisqu'à la musique on retrouvera une légende hollywoodienne, Franz Waxman. Autre allemand de génie, le film bénéficie d'une bande-son de grande qualité. Lang et Waxman se sont connus pour le film Lilium, celui que Lang a réalisé à Paris avant de partir pour les États-Unis. Incidemment, Waxman fera exactement la même exode vers les States, avec étape à Paris lui aussi. Après Lilium en 1934 et donc Fury en 1936, les deux hommes ne collaboreront plus. Waxman mènera lui aussi une carrière absolument mythique en composant la musique de très grands classiques, notamment Sunset Boulevard que je vous ai recommandé dans l'épisode 6 de la saison 1 de Sinécure. Moins connu mais pourtant d'une importance cruciale, le film bénéficie aussi du savoir-faire de Joseph Ruttenberg. Juif immigré arrivé aux États-Unis de l'Ukraine alors qu'il n'avait que 4 ans, ce directeur photo va marquer de son talent de très grands films comme par exemple Gaslight de George Cukor. Il collabore toute sa carrière durant avec les plus grands noms de l'industrie hollywoodienne, Vincente Minnelli, William Wyler, Fritz Lang donc, Robert Wise et j'en passe, et marque de son talent la photographie des films auxquels il participe. Dans Fury, il va reprendre à son compte la lumière crépusculaire typique de l'expressionnisme allemand et éclairer certaines scènes de façon à susciter en nous la peur. Mine de rien, il se pourrait bien que ce faisant, Ruttenberg jette les bases esthétiques du film noir, dont la lumière est souvent comparée à celle des films allemands du début du XXe siècle. Cette lumière si particulière, si dure à certains moments, contribue à créer une ambiance très tendue, qui va venir jouer sur nos angoisses, particulièrement lors de scènes où les personnages jouent face caméra. Vous trouverez tous ces plans-là sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à me suivre, @charledy. Et semble s'adresser directement à nous, bien souvent animés d'une grande colère, d'une rage ou d'une tristesse infinie. En bon misanthrope, Lang fait du Lang, mais c'est terriblement efficace. Finalement, le plus étonnant avec Fury, c'est sa réception. Souvent pointé du doigt comme anti-nazi et donc par la force des choses pro-démocratie et pro-américain, j'ai plutôt envie de soutenir, au regard de l'œuvre et de la vie de Lang, la thèse selon laquelle le film est anti-américain et par extension, pas antidémocratique, mais à tout le moins dubitatif quant à la supposée supériorité du système démocratique. Rappelons simplement que le scénario est né d'une coupure de presse relatant un lynchage ayant eu lieu à San José en Californie. Plusieurs indices me font douter de l'admiration du réalisateur allemand pour l'American Way of Life, mais c'est surtout la façon dont il dépeint la société américaine dans son ensemble, l'aveuglement dont celle-ci fait preuve et le torrent de haine qui va provoquer un grand désir de vengeance, thème langien par excellence, qui me font douter de la bonne intention du réalisateur allemand. Il se moque de la sacro-sainte communauté typiquement américaine et qui servirait à mettre sous le tapis tout ce qui dérange. Le sens du divertissement, le besoin de tout donner à voir est presque le centre de ce film et les caractéristiques de la société américaine sont sans cesse montrées et tensées par une mise en scène qui ne se prive pas de dire son dégoût pour ce qui est interprété comme un manque de pudeur. Vu depuis une ère qu'on espère post-Trump, le film est carrément terrifiant. Très bien servi par un jeune Spencer Tracy, bien dirigé et qui à la césure du film semble être quelqu'un d'autre, et par une Sylvia Sidney pas en reste, le résultat final sonne comme un Hitchcock qui aurait mal tourné, où le personnage principal, pris par erreur dans une intrigue qui le dépasse, se moque du « retour à la normale ». Si vous aimez les situations tendues, la photographie clair-obscure et les misanthropes, alors Fury est fait pour vous. Il est disponible à la location sur la plateforme Universciné pour la somme de 2,99€. En 1936 au cinéma, on pouvait voir Les Temps modernes de Charlie Chaplin, L'extravagant Mr. Deeds de Frank Capra et Les Bas-fonds de Jean Renoir. La griffe du passé de Jacques Tourneur, durée 1h37. Installé dans une petite ville sur le lac Tahoe, Jeff, un homme taciturne et tranquille, vit de sa petite station essence paisiblement. Un jour, un homme vient lui rendre visite et lui rappelle un passé qu'il aurait préféré oublier. Le but de cet épisode n'est pas de chercher le film noir parfait, mais force est de reconnaître que face à la griffe du passé, peu de concurrents vont pouvoir faire le poids. Ce n'est pas tellement que les autres ne soient pas de bons films, je m'efforce chaque mois de vous proposer des films que je trouve à tout le moins intéressants, mais celui-ci est celui qui regroupe le plus de tropes du film noir, au premier titre desquels la figure du détective privé. Instauré dès la naissance du genre, notamment avec le Faucon Maltais de John Huston, qui installe Humphrey Bogart comme LA référence en la matière, le Private Eye, comme il est appelé outre-Atlantique, est devenu un personnage incontournable qui, avec le temps, a même dépassé les frontières du film noir. Il traverse les décennies jusqu'à être pastiché à l'aune des années 90 dans des films comme Qui veut la peau de Roger Rabbit par exemple. Désabusé, particulièrement porté sur la boisson, il a la particularité et le grand intérêt de représenter à la fois la loi et la criminalité. Souvent ancien flic, il connaît toutes les ficelles du métier, mais il n'est pas tenu, ou plus tenu, d'en respecter les règles et peut donc être tour à tour corrompu et corrupteur. Il est la quintessence du film noir en ce qu'il traverse librement les frontières du bien et du mal.
Hello, Markham, glad to see you again.
You know, I always wondered if you miss me.
Same guy. Time-proof, weather-proof. Cigarette?
Smoking.
Had breakfast?
No.
Joe, tell the boy we have a guest. Say, I understand you're operating a little gasoline station.
You say it like it was hard to understand.
Well, it is.
It's very simple. I sell gasoline, I make a small profit. With that, I buy groceries, the grocer makes a profit. We call it earning a living. You may have heard of it somewhere.
I may have, but it wasn't from you.
En ce sens, le choix de Robert Mitchum ressemble beaucoup à une excellente idée, tant le ton désabusé et l'alcoolisme étaient partie intégrante de la vie de l'acteur. Personnalité complexe, menteur invétéré, Tourneur a du flair d'aller le chercher pour interpréter cet archétype, et l'histoire écrite par Daniel Mainwaring a en plus l'intelligence de lui offrir un passé compliqué auquel le titre du film fait référence. C'est un personnage parfait, dessiné au millimètre pour rentrer dans le moule du film noir. Pour lui donner la réplique, il fallait un personnage au moins aussi archétypal. Je parle d'archétype et pas de cliché, parce que les premiers permettent de véhiculer quelque chose qui parle à notre inconscient collectif, quand les seconds tentent d'adopter des attributs sans toutefois être porteurs de quoi que ce soit. Ce personnage donc, c'est celui de la femme fatale bien sûr, et c'est Jane Greer, actrice à la relativement courte carrière qui s'y colle. Mystérieuse, vénéneuse et terriblement sexy, Elle instille ici un doute perpétuel dans l'esprit du spectateur. Est-elle le jouet d'un destin plus grand, qui serait en l'occurrence représenté par le personnage de Kirk Douglas, lui aussi un peu trop propre sur lui-même et tout, comme je vous l'avais décrit dans le premier épisode de cette saison 3, en violence rentrée? Ou bien au contraire, est-elle l'instigatrice d'un dessein machiavélique, bien malin qui peut dire, tant Cathy ne laisse rien transparaître réellement jusqu'au dénouement? À leur côté, on l'a vu, Kirk Douglas dans l'un de ses tout premiers rôles importants. Il y est très bien en mafieux persuasif et menaçant. Sa façon de pousser Jeff dans les bras de Cathy, pourtant censée être sa femme, est particulièrement dérangeante et fait planer sur tout le film le malaise d'une manipulation dont on n'arrive pas à comprendre le but. Et puis bien sûr, on retrouve une ingénue interprétée par Virginia Houston, un homme de main patibulaire interprété par Paul Valentine et toute une panoplie de personnages qui viennent enrichir l'histoire de portraits surprenants. Tout ce beau monde, et particulièrement le duo Mitchum-Greer, bien sûr, est photographié par un Nicolas Mouzouraka en pleine possession de ses moyens. Il offre au film un écrin absolument sublime, notamment avec des contre-jours fantastiques qui renforcent l'idée selon laquelle le film noir emprunte à l'esthétique allemande. Toutes ces choses sont bien sûr fondamentales et sans elles, le film ne serait rien, mais ce qui m'a marqué au visionnage et qui devrait aussi attirer votre attention, c'est ce sentiment d'inéluctabilité, de fatalité. Rien n'oblige Jeff à faire les choix qu'il fait. Sur le papier, c'est même tout le contraire. Soit il est pris pour quelqu'un qu'il n'est pas, soit il est bien l'homme que l'on dit qu'il est, mais dans ce cas, pourquoi ne pas nier et fuir? Cette structure de prime abord étonnante est en fait, vous l'aurez compris, l'une des caractéristiques de ce genre, qui met en scène des personnages qui ne devraient absolument pas s'associer. Mais le contexte, leur historique, et bien souvent, ne soyons pas naïfs, le simple scénario, exige au contraire qu'ils se rapprochent, même momentanément, pour remplir une mission. Et voilà comment de cette coopération naît une foule de situations bien souvent inextricables qui invariablement va les entraîner à leur perte, parfois leur perte à tous. En ce sens, La Griffe du Passé est un excellent représentant du film noir. On pourrait même dire qu'il en applique les codes à la perfection et laisse un plan détaillé que reprendra d'ailleurs dans ses prémices David Cronenberg dans A History of Violence, sorti en 2005. Regardez les deux à la suite et vous verrez comme moi que les ressemblances dans l'intrigue, jusqu'à un certain point, sont troublantes. Si vous aimez les personnages condamnés, les passions amoureuses et les fossettes au menton, vous adorerez La Griffe du Passé de Jacques Tourneur. Il est disponible sur Prime Video avec le pass Warner. En 1947, en France, on pouvait aller au cinéma pour voir Dumbo de Ben Sharpstein, Quai des Orfèvres de Henri-Georges Clouzot et Chucha de Vittorio De Sica. Le quatrième homme de Phil Carlson, durée 1h39. Un commanditaire mystérieux élabore le casse parfait et embauche trois hommes pour le réaliser. L'exécution du plan piège un livreur qui se trouve être un ancien détenu. Celui-ci enquête pour comprendre ce qui lui est arrivé et son investigation le mène au Mexique dans différents milieux corrompus. L'une des choses les plus réjouissantes avec le film noir, c'est la flexibilité du genre et notamment son peu d'exigences. Ce n'est pas, contrairement par exemple aux films d'époque, un genre qui exige une débauche considérable de moyens. Et c'est parce que, finalement, le film noir est un genre où on étudie d'abord et avant tout les passions humaines. Quiconque a une bonne histoire et réunit des personnages qui s'apparentent un tant soit peu aux archétypes que nous avons abordés peut faire un film noir. C'est ce qui fait la grande popularité du genre dans les années 30, 40 et 50, et c'est ce qui en fait aussi le terrain idéal pour qui souhaite travailler la mise en scène. Le film noir devient un genre où se présentent à la fois des cinéastes chevronnés, qui vont tenter des choses inattendues pour une somme d'argent acceptable, mais aussi des profils plus techniciens, qui cherchent à s'aguerrir, dont le style personnel est moins affirmé et qui ne sont pas forcément très reconnus. Ils pourront faire des films de commande pour des studios qui ne veulent pas trop dépenser, mais sont disposés à tenter une aventure sans trop risquer.
What's your hurry, fella?
Do you mind?
For a guy who did all right, you seem to be in too much of a hurry.
Is there a law against it?
Maybe. Who sent you here, fella?
Diaz, the cab driver.
Okay, fella.
Okay, wise guy.
You found me, now what?
What's eating you?
You've been giving me the fish eye all night.
You better see a doctor, Mac. You're in bad shape.
Le quatrième homme est clairement un exemple de ce deuxième cas de figure. D'abord parce que Phil Carlson n'est pas, au moment de la sortie de son film, très connu ou reconnu. Il ne le sera que dans les années 70, après Justice Sauvage, son avant-dernier long métrage. Carlson commence sa carrière à Universal, comme concierge, avant de faire à peu près tous les boulots possibles et imaginables, jusqu'à devenir assistant réalisateur. Ballotté d'un projet à l'autre, sans véritablement jamais sortir du lot ou concrétiser les promesses d'un passage à la réalisation qui lui sont faites, il fait sa carrière en parallèle des studios majeurs que sont à l'époque la Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM, Warner Bros., Paramount, la Fox et RKO. C'est en partie ce qui explique son relatif anonymat. Et ce qui est frappant, c'est que c'est le cas pour beaucoup de gens dans Le Quatrième Homme. John Payne, son protagoniste appelé Joe Rolfe, a une trajectoire comparable. Il va connaître un grand succès avec Le Miracle de la 34e rue en 1947 et une série de télé datant de 1957 intitulée The Restless Gun, jamais diffusée en France. En dehors de ça, l'acteur participe à quelques comédies musicales produites et distribuées par la Fox, mais rien de bien mémorable. Et pourtant, il interprète avec brio le protagoniste de cette histoire. Le reste du cast est du même cru. On y retrouve même un Lee Van Cleef, plus tard énorme star du western à la sauce Sergio Leone, ici très jeune. Cet ensemble de choses, particulièrement cette économie limitée, confère au film un look de série B parfaitement réjouissant. Certaines scènes de rue notamment sentent le studio, et on voit bien que la jungle luxuriante qui entoure le hameau de la deuxième partie du film ressemble plus à un point vert derrière un hangar qu'autre chose. Mais alors attendez. Un ensemble d'actrices relativement peu connues, une économie réduite, une intrigue tenant sur une serviette en papier et un look souvent fauché, si ça a l'aspect d'une série B et que ça sonne comme une série B, et que ça a le même goût qu'une série B, eh bien c'est que c'est une série B. Et que permet ce genre de petit film que personne ne regarde de trop près au studio ? Vous avez parfaitement compris, cela permet d'expérimenter. Et c'est exactement ce que Carlson fait en composant un film efficace et impitoyable, et en s'affranchissant un peu des règles du film noir d'ailleurs, en passant, il propose une mise en scène sobre et efficace, comme le reste de son film. Des jeux de regard, primordiaux dans la deuxième partie du film, naissent des cadres dans le cadre, des champs contre champs très tendus, des entrées et sorties de cadres surprenantes, une utilisation des perspectives assez unique. Au bout du compte, on a un film coupé en deux parties très différentes. La première est brusque, lancée comme un poids lourd sur l'autoroute et ne nous laisse pas respirer une minute. La seconde est tout l'inverse. Carlson et Buddy Small, son monteur, qui a fait une grande partie de sa carrière à la télévision, semblent au contraire tout à fait disposés à prendre le temps d'observer tout ce petit monde et à nous faire ressentir le poids de chaque mot, de chaque coupe et de chaque décision. Les jeux d'influence y sont nombreux. Une touche d'optimisme viendra du personnage interprété par Colin Gray, qui en temps normal n'aurait pas sa place dans un film noir. Cette entorse au règlement est aussi renforcée par la posture du personnage de John Payne, mais je n'en dis pas plus, de peur de vous divulgâcher trop de choses. Sachez simplement que ces écarts n'entachent en rien le plaisir que l'on peut prendre à suivre ce jeu de poker menteur, qui a d'ailleurs inspiré des années après le Reservoir Dog de Quentin Tarantino. Si vous aimez les jeux de cartes où le bluff est monnaie courante, les personnages prêts à tout pour aller au bout et les moments de tension, alors Le Quatrième Homme est fait pour vous. Il est disponible sur Prime Video. En 1952, on pouvait voir au cinéma Fanfan la Tulipe de Christian Jacques, L'Homme Tranquille de John Ford et Scaramouche de George Sidney. Police spéciale de Samuel Fuller, durée 1h30. Kelly, une prostituée indépendante en fuite, cherche à reconstruire sa vie. Elle débarque dans une petite ville américaine, comme il en existe 100, et parvient dans un premier temps à s'installer. Au gré d'un événement malheureux, son passé la rattrape. Je ne vais pas vous mentir, choisir 4 films pour l'épisode d'aujourd'hui a été très très compliqué. Déjà parce que c'est toujours complexe de trouver un film qui m'a plu, qui rentre dans la thématique du mois, sur lequel je vais trouver quelque chose à dire, et qui en plus est disponible en ligne. En plus, parce que tellement de films ont marqué ce genre. C'est vraiment l'un des épisodes où je n'arrive pas à me décider du tout entre les films qui ont eu une grande influence, ceux qui me semblent plus confidentiels et intéressants, ceux réalisés par des cinéastes qu'il me semble important d'aborder, et Police Spéciale est l'illustration parfaite de ce puzzle mental auquel je joue tous les mois. Déjà parce que c'est un film qui est à cheval, on va le voir sur deux genres. Je fais des guillemets avec mes doigts et je vous explique pourquoi dans quelques secondes. Deux genres similaires mais pas identiques. En 1964, le film noir n'a plus tellement la cote aux États-Unis. Le pays est entré depuis quelques temps dans une nouvelle phase qui sera définitivement lancée par la mort du président Kennedy survenu le 22 novembre 1963. Au cinéma aussi, ce changement se fait sentir. Ce mouvement n'a pas vraiment de nom, mais quelques cinéphiles ont décidé de l'appeler Hollywood Breakdown. Les cinéastes décident d'arrêter de projeter vers l'extérieur une image séduisante pour jeter un regard cru sur ce qui a construit l'Amérique. Ainsi naît un cinéma nouveau, étrange, inconnu et incompris des studios et qui met fin à l'âge d'or d'Hollywood et qui va faire le lien avec le nouvel Hollywood des années 70. Période trouble et passionnante qui fera, je peux vous l'annoncer d'ores et déjà, l'objet d'un épisode de Cinécure très bientôt cette saison. Je ne vais donc évidemment pas rentrer dans le détail du Hollywood Breakdown, pour reprendre le terme attribué à Nicolas Sada, puisque j'en parlerai de façon extensive dans ce prochain épisode. Mais ne perdez jamais ça de votre esprit, parce que si Police Spéciale est sans nul doute un film noir, c'est aussi définitivement un film du Hollywood Breakdown. La caution criminalité, vous l'aurez compris, est représentée par le personnage de Kelly, magistralement interprété par Constance Towers, dont la carrière au cinéma se limite à une quinzaine de longs métrages et dont les rôles les plus importants sont deux rôles qui lui ont été attribués par Samuel Fuller en 1963 pour Shock Corridor et en 1964 pour Police Spéciale donc.
Hear that? I hear the gondoliers singing. Do you? If you pretend hard enough, and if you listen hard enough, you'll hear his fine Italian voice.
Et puisque je viens de le mentionner, parlons quelques secondes de Samuel Fuller. Journaliste, auteur, écrivain, scénariste, réalisateur, ce touche-à-tout a mené son bateau bien souvent en dehors du système conventionnel. D'abord avec des westerns ou bien des films de guerre, puis petit à petit en allant chercher des choses plus marginales. Le film noir a été pour lui l'occasion d'explorer énormément de choses. J'ai d'ailleurs très longtemps hésité à vous parler du port de la drogue, et je profite de citer ce titre pour vous signaler que ni celui-ci, ni Police Spéciale n'ont de rapport avec l'action du film. Il n'est d'ailleurs jamais question de drogue dans le premier, et pas vraiment de Police Spéciale ou pas dans le second. Un mystère de plus à mettre au tableau de chasse des traductions françaises des titres de films. Mais je m'égare et je ne vous parle pas du film. Comment le faire sans en dire trop? Ce que je peux vous dire, c'est que, même si je l'ai inclus dans cet épisode, Police Spéciale est en réalité à mettre plutôt du côté des néo-noirs. Qu'est-ce que le néo-noir? Je vous en dirai plus le mois prochain, parce qu'une fois de plus, je digresse et je ne vous ai pour le moment toujours pas parlé du film. Après une scène d'introduction dérangeante, pas tellement parce qu'on ne comprend pas ce qui s'y passe, mais surtout parce qu'on ne comprend pas bien à qui on a affaire et que Kelly nous est présentée de façon marquante, Fuller nous arrache à la grande ville pour nous emmener à Grantville, une petite bourgade qui pourrait parfaitement être l'Amérique telle que l'Amérique souhaiterait qu'on l'aperçoive. Toutes les interactions qu'elle va avoir avec les différents personnages vont petit à petit façonner une idée de ce pays qui n'a rien de reluisant. Un pays qui renvoie ses marginaux hors de ses murs, qui abandonne sa jeunesse et où il est terriblement compliqué de changer sa destinée. À l'inverse de tout ce que le cinéma nous a jusque-là appris. On y retrouve un certain nombre de personnages qu'on pourrait lier plus ou moins au film noir, mais en lieu d'une femme fatale ou d'un détective, on a une prostituée et un inspecteur de police qui n'arrivent pas à s'entendre. Dans sa structure, le film semble construire quelque chose d'extrêmement complexe, et à mesure que le temps passe, on a du mal à comprendre où Fuller veut en venir. Puis, tout change aux deux tiers du film. Un événement vient révéler la vraie nature de Grantville et remettre en cause tout ce qui a été mis en place jusqu'ici. Cette révélation sera le dernier clou dans le cercueil que Fuller a pris un malin plaisir à calmement confectionner. Au niveau esthétique, Fuller se fait accompagner de Stanley Cortez, directeur photo avec lequel il a collaboré un an auparavant sur Shock Corridor et qui a notamment brillé sur La Nuit du Chasseur de Charles Laughton, lui aussi considéré comme un film noir émérite. Le noir et blanc, qui est créé pour l'occasion, est superbe. Cela ne surprendra pas grand monde. C'est Paul Dunlap, artisan de plus du Hollywood parallèle, celui qui ne fréquente pas vraiment les gros studios, qui sera chargé de la musique et qui nous offre quelques morceaux de jazz réjouissants. De ces collaborations résulte un film étrange, gênant même, qui en dit long sur la façon dont Samuel Fuller, souvent reporter pour des faits divers glauques au début de sa carrière professionnelle, voit les États-Unis. Mais c'est aussi une œuvre profondément intéressante en ce qu'elle est critique justement. Le genre de film qui ne pouvait sortir que dans les années 60, cette fameuse période dont j'ai hâte de vous parler et qui a créé certains des films les plus dérangeants qui soient. je vous fais la promesse que tôt ou tard, nous reviendrons aussi à Samuel Fuller, l'un des réalisateurs les plus influents qui ait existé. Si vous aimez les commentaires sociaux et politiques, les mondes interlopes et les surprises, alors Police Spéciale est fait pour vous. Il est disponible à la location sur Univers Ciné pour la somme de 2,99€. En 1964, en France, on pouvait voir L'Homme de Rio de Philippe de Broca, Le Fils de Spartacus de Sergio Corbucci et My Fair Lady de George Cukor. Ce premier tour de piste touche à sa fin. Je vous l'ai un peu dit sur la fin, on quitte maintenant définitivement le film noir pour entrer dans une nouvelle phase où Hollywood et les studios vont perdre de leur superbe et où les cinéastes vont chercher à se réapproprier les codes de ce qui leur a été proposé pendant des années. On va laisser les années 60 et la névrose hollywoodienne de côté aussi, je vous en parlerai dans un autre épisode dédié, je vous l'ai promis, pour aller plonger avec résolution dans le néo-noir. J'aurai l'occasion de vous en dire plus sur ce terme le mois prochain puisque l'épisode lui sera entièrement dédié. J'en profite pour vous dire aussi que si les mutations de Hollywood et du cinéma que j'ai effleurées en introduction de cet épisode vous intéressent, il existe un film extraordinaire justement sur ce sujet précis, sorti au début de l'année et intitulé Babylone. C'est à ce jour la meilleure rendition que j'ai vue de ce moment précis de l'histoire d'Hollywood et le passage de relais entre les années pré-Code Heist et celles qui viendront après. Incidemment, nous nous intéresserons le mois prochain au monde d'après le Code. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à vous abonner déjà et à noter le podcast 5 étoiles si votre plateforme le permet. Il n'y a rien de mieux pour le référencement. Vous pouvez aussi en parler à vos proches. Le cinéma, c'est toujours mieux quand c'est partagé. Je vous rappelle que tous les films conseillés ce mois-ci sont disponibles en description de l'épisode avec les liens vers les plateformes qui les diffusent. Par ailleurs, vous pouvez trouver tous les films recommandés depuis le tout premier épisode de Cinécure dans une liste Letterboxd dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux où j'officie en tant que @charledy, autant sur Instagram que sur Letterboxd. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord du vaisseau Hypersensas, en général, et le channel Cinécure en particulier, en cliquant sur l'invitation en description de cet épisode. Nous venons de mettre en place un ciné-club avec une watch party et discussion du film choisi. Rejoignez-nous. Cinécure est un podcast créé, produit et réalisé par Charles-Édouard Wasselin, c'est moi, pour Vaisseau Hypersensas, dont je remercie tous les membres pour leur bienveillance et leur patience. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cinécure. En attendant, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao.